Voilà, donc bonjour à tous. Je suis très content en fait de trouver plusieurs anciens Blanc-Mesnilois ici que j'ai connus dans l'église du Blanc-Mesnil quand j'étais là-bas. Ils sont partis juste avant nous, ma femme et moi, pour venir du côté ouest de la région parisienne. Donc voilà, c'est très très intéressant quand on est chrétien, de se retrouver, de retrouver des personnes que l'on connaît. C'est un peu la surprise pour moi, mais voilà. Donc, on va essayer de parler de ce que j'ai appelé les passerelles vers nos contemporains. Donc, ce matin, on va essayer de voir d'abord un peu bibliquement, et puis aussi comprendre quelle est la société où nous vivons. Et cet après-midi, on va essayer de basculer vers, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce matin, c'est plutôt les bases, comprendre pourquoi je parle de passerelle, pourquoi c'est biblique, et ensuite, la société française contemporaine. Puis cet après-midi, on va passer à des choses un petit peu plus, on peut dire, des choses qu'on peut mettre en pratique. OK? Alors, passerelle. Le grand principe de passerelle, on va le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 9. Alors, si vous avez votre Bible, c'est bien de suivre ces textes bibliques dans 1 Corinthiens 9. Il faut savoir que entre le chapitre 8, 9, 10 et le début du chapitre 11, Paul explique ses principes missionnaires. Et au centre de ces principes missionnaires, il dit, donc de 1 Corinthiens 9, verset 19, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Donc Paul veut servir les personnes qui sont autour de nous, et justement, j'ai mis au fond de la salle de culte quelques livres et DVD. Je vous propose. Le livre s'appelle justement, enfin le plus gros livre, Servir à nos Français. C'est pas grammatical, pourquoi? C'est une citation de Jean Calvin. Alors, décidément, ce matin, Calvin est au centre de notre culte. Mais c'est un grand bonhomme quand même. Hein. Donc, servir à nos Français, on veut servir notre peuple. Et une façon de le faire, comme Paul dit, c'est en devenant le serviteur de tous. Donc il donne des exemples, le verset 20. Avec les juifs, j'étais comme juif afin de gagner les juifs. Okay? J'ai une belle-sœur qui avait été missionnaire en Israël, et quoique personnellement, elle ne mange pas forcément kasher, quand elle avait des invités, elle mangeait kasher. Parce qu'en fait, elle voulait pas mettre un obstacle à l'évangélisation, donc elle se fait juive avec les juifs. Okay? Mais il dit, Paul continue, mais avec ceux qui sont sans loi, c'est le verset 21, comme sans loi. Quoique je ne sois pas moi-même sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ça veut dire que autour de nous, il y a des gens qui sont très, dans ce sens, respectueux de certains principes, les gens pratiquants, les gens religieux, si on veut, et avec eux, on va parler d'une certaine façon. Il y a autour de nous des gens qui bouffent du curry, comme on dit, mais il faut un peu être avec eux aussi, non pas forcément être d'accord, mais ne pas créer des... Tout à tous, toute manière, quelques-uns. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je voudrais d'abord donc souligner une chose, selon ce texte, c'est que ce n'est pas parce qu'on se fait tout à tous qu'on a la solution miracle et que tout le monde se convertit. Paul ne s'attendait pas à cela. Il dit afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On est content quand quelques-uns sont sauvés. Donc, il faut pas voir dans tout ce que je vais dire aujourd'hui une série de recettes en un cas, et après, tout le monde va comme on dit, tomber dans, comme des mouches. C'est pas ça. Mais pourquoi on le fait? Moi, je pense qu'il y a deux raisons. On met les chances de son côté, parce qu'on a communiqué. Mais deuxièmement, on glorifie Dieu. Parce que si quelqu'un refuse l'évangile alors qu'il a bien compris, dans un sens, ça glorifie Dieu, parce qu'on n'a pas rejeté le Dieu tel qu'il n'est pas. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Donc, en fait, si on arrive à expliquer qui est Dieu, les gens sont libres et Dieu leur donne cette liberté de ne pas croire. Mais en communiquant avec les personnes qui sont autour de nous, en établissant ces passerelles, on met les chances du côté de Dieu parce que, en fait, il voudrait pouvoir leur parler avec un langage qu'ils comprennent. J'étais en Suisse il y a 15 jours et on m'a parlé d'un groupe de pasteurs qui s'appelle les pasteurs du désert. En fait, ce ne sont même pas des pasteurs, en fait, mais peu importe. Et qu'est-ce qu'ils ont comme principe? Qu'ils se mettent sur les places et ils lisent à haute voix les textes bibliques. Bon, je ne suis pas contre. Mais ils disent, c'est la parole de Dieu, alors que tout ce qu'on dit n'est pas la parole de Dieu. Oui, mais si c'était le cas, Paul lui-même, Pierre, les autres, n'auraient pas cherché à expliquer, ils auraient tout simplement lu les textes, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont cherché à établir des passerelles, des points de contact avec les personnes autour d'eux. Alors, on va regarder trois cas de figure. Le même apôtre, l'apôtre Paul, dans quatre chapitres qui se suivent pratiquement dans les Actes des Apôtres, mais trois cas de figure très différentes. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de vous montrer que cette idée de créer des passerelles, de parler à des personnes juives, comme juifs avec des juifs, etc., est totalement biblique. Donc, premier cas de figure, c'est dans Actes 13. Donc, encore, si vous avez votre Bible, vous pouvez le chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul arrive dans cette ville d'Antioche. C'est le verset 14. Ils arrivaient à Antioche de Pisidie, parce qu'il y a deux Antioches dans le Nouveau Testament. Là, c'est Antioche de Pisidie. C'est en Turquie, la Turquie actuelle. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Donc, en tant que juif, le sabbat, il est allé à la synagogue. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. » Donc c'était la coutume. Qu'est-ce qui se passait dans la synagogue? Apparemment, on n'est pas sûr qu'ils chantaient, mais ils lisaient les textes bibliques de l'Ancien Testament et ils priaient. Donc ça, c'était la pratique de la synagogue. Et quand il y avait quelqu'un de passage, on leur donnait la parole. Un peu comme vous l'avez fait pour moi aujourd'hui, dans un sens. Donc, Paul se lève, et du verset 16 jusqu'au verset 41, Paul explique l'évangile. Mais c'est très intéressant comment il fait. D'abord, au verset 16, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Donc, il se met tout de suite à s'identifier avec ce peuple. Il dit, « Nos pères, je suis juif comme vous. » C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Et puis, il passe en revue toute l'histoire d'Israël pour montrer, en fait, que les juifs avaient souvent la nuque dure, comme on disait, ils ne voulaient pas se plier à ce que Dieu révélait. Mais vers la fin de ce texte, il commence à utiliser un style de prédication qu'on appelle des fois rabbinique. Donc les rabbins avaient leur façon d'enseigner les textes, ils prenaient le texte, ils montraient le sens du texte, etc., avec des raisonnements qui, pour nous, peuvent sembler un peu étranges. Je donne un exemple, verset 32. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Je pense que si vous sortiez dans la rue ici pour dire aux gens, lisez ce verset. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont pas dire, ah, ça veut dire que Jésus est ressuscité. Parce que pour nous, ce n'est pas évident. Mais pour eux, c'était évident. Pourquoi? Parce que les Juifs attendaient le Messie. Ils avaient cherché dans tous les textes de l'Ancien Testament, tous les versets qui allaient annoncer le Messie. Donc pour eux, Paul utilise en quelque sorte toute leur réflexion depuis des siècles. Tous les versets qui parlaient de ce Messie qui devait venir. Et je crois que c'est encore plus étrange, si on veut, quand on arrive au verset 34, parce qu'il veut prouver que Jésus est ressuscité en disant que Dieu l'a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Là encore, ce verset seul, si on vous l'avait donné, est-ce que vous auriez dit tout de suite, « Ah, ce verset prouve que Jésus est ressuscité. » Non. Et pourtant, Paul le dit. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à un peuple qui avait identifié tous ces versets dans l'Ancien Testament comme étant des versets messianiques. Okay? Donc, il parle à ce peuple. Maintenant, on va passer à un deuxième cas de figure. C'est le chapitre suivant où Paul s'adresse à des paysans de Lystre. Donc Lystre, c'était une petite ville. Il guérit un homme et les gens prennent Paul et Barnabas pour des dieux sous forme humaine qui sont descendus vers nous. Donc là encore, il fait un discours. Mais cette fois-ci, dans le discours que l'on va lire, Paul ne mentionne pas une seule fois la Bible. Il ne cite absolument pas de verset biblique. Il commence avec le vécu de ces paysans. Je vais commencer au verset 17 parce que je vais revenir au début du discours tout à l'heure. Il n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Qu'est-ce qu'un paysan veut? Qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait du soleil, que les récoltes poussent, qu'il puisse manger et boire et avoir la joie dans le cœur. Ouais, on pourrait presque dire c'est un discours pour le peuple français, hein. Remplissant vos cœurs de joie, vous donnez la nourriture avec abondance. C'est un verset d'ailleurs qui m'a un petit peu interpellé, parce que parfois dans nos milieux évangéliques, on regarde le monde, on dit « Ah oui, ça va pas, tout va de travers, il y a le péché partout, il y a que le bonheur en Jésus. » Bon, dans ce sens c'est vrai, hein, je dis pas le contraire, mais Paul ne le dit même pas. Il dit « Dieu vous donne la joie, même la joie, ça vient de Dieu. » Donc il se met vraiment au diapason avec ses paysans, en disant, tout ce que vous avez vécu, c'est le vrai Dieu qui vous a donné ça. Okay? Même apôtre, mais un peu un public différent. Le troisième cas de figure, c'est à Athènes. Et là, c'est au chapitre 17. Au chapitre 17, où cette fois-ci, Paul, c'est la capitale intellectuelle de l'Empire. Vous connaissez certainement l'histoire. Il se promenait dans les rues. Il a été un peu irrité, presque traduit, agacé à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il discutait avec les gens. Il y avait des philosophes épicuriens. Il y avait des philosophes stoïciens. Il y avait des différentes écoles. Et puis, à un certain moment, le texte dit que à Athènes, ils passent leur temps à parler philosophie. Chercher à comprendre, en fait, hein, le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Donc, on voit que Paul arrive en disant autre chose. On l'a fait monter sur l'Aréopage. J'étais à Athènes il y a 2-3 ans. Et donc, j'ai été voir tout ça. Je suis monté sur l'Aréopage, une petite colline, si on veut, en face de l'Acropole. je me suis permis de prendre un petit caillou sur l'aréopage que je laisse sur mon bureau pour me rappeler, il faut faire comme Paul, il faut se faire tout à tous. Donc c'était mon petit rappel apologétique, comme on dit. L'apologétique veut dire trouver en partie les arguments hein, pour les gens. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, de nouveau, il crée un pont, une passerelle. Avec les Juifs, c'était la passerelle de l'attente du Messie. Avec les paysans, c'était l'attente de leur vécu en tant que paysans. Et cette fois-ci, il dit, j'ai parcouru votre ville, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Vous êtes religieux. Je crois qu'il voulait le dire dans un bon sens. Vous cherchez à comprendre. Mais j'ai trouvé cet hôtel avec l'inscription « Un Dieu inconnu ». Je vais vous dire qui il est. Donc il a établi cette passerelle. Je vais lire donc à partir du verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines. » Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, et ont déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, je m'arrête là pour le moment. Pour souligner deux ou trois choses. D'abord, première remarque, tout comme à l'Istre, il n'a jamais cité la Bible. Maintenant, on sait bien que les gens qui se convertissent, Paul passait leur temps à en faire des disciples. Là, il leur donnait le contenu biblique. Mais dans un premier temps, c'est même pas ça. Non seulement il ne cite pas la Bible, mais il cite un de leurs propres poètes. Au verset 28, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. C'est un peu comme si aujourd'hui, on cite un philosophe, ou on cite un chanteur, on chante quelqu'un qui est connu par le public, en quelque sorte. La troisième chose, dans ce texte, à la différence de l'Istre, où c'était très, très concret, l'appui, le soleil, la nourriture, il utilise beaucoup de mots abstraits. Il dit par exemple, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il n'a pas utilisé ces mots-là quand il a parlé aux paysans. Mais devant les intellectuels, il parle de la vie, du mouvement et de l'être. Donc voyez bien que dans trois textes qui se suivent presque, actes 13, 14 et 17, le même Paul se fait tout à tous pour parler à son public. Okay? J'ajoute une chose, parce que parfois les gens m'ont dit « Ah ben c'est trop facile, ça veut dire que tu ne dis pas l'essentiel parce que tu n'ouvres pas la Bible, enfin, etc. » C'est pas tout à fait ça. Parce que moi je pense personnellement que s'il y a une chose qu'on a mis un peu trop en sourdine des fois quand on fait notre évangélisation, c'est que on n'est pas sauvé par la foi, mais que dans tous les cas, que ce soit Jésus ou Jean-Baptiste ou Pierre, leur premier mot c'était « repentez-vous et croyez ». Donc il y a la repentance. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Et dans ces trois cas, Paul demande cela. Juste un petit mot avant de lire les textes. C'est quoi la repentance? Si on voit que c'est uniquement des pleurs, les pleurs peuvent accompagner, mais ce n'est pas encore la repentance. Si on dit « je regrette », attention, parfois on regrette les conséquences de ces actes, et pas forcément les actes en tant que tels. Ce n'est pas encore la repentance. La repentance... Bibliquement, le mot même en grec veut dire changer d'avis, changer de pensée, changer d'idée. C'est profond. On commence avec vraiment la pensée, les représentations mentales, comme certains disent, pour dire, vous pensiez comme cela, il faut changer. C'est autre chose. vous pensiez que Dieu n'existait pas, se repentir, ça veut dire, je crois qu'il existe. Je pensais que je pouvais faire n'importe quoi dans mes relations, je me repens, je comprends que ce n'est pas comme ça. Petite anecdote, à certains moments j'avais un copain, et quand j'étais encore moi-même étudiant, jébusien à l'époque, on faisait des stands bibliques ensemble, où moi j'étais un peu timide, mais lui il criait à tue-tête, et il disait toujours, avec un double sens, « Lisez la Bible, ça vous changera les idées. » Mais dans les deux sens, ça vous changera les idées. Et c'est ça la repentance. Okay. Alors, revenons rapidement à ces trois textes, et vous allez voir que même si on crée la passerelle, on n'oublie pas pour autant la repentance. Acte 13, verset 40. « Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre. » Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Donc prenez garde. Il faut changer d'avis, il faut dire, voilà, Jésus est le Messie annoncé. Dans Acte 14, qu'est-ce que l'on voit? Je n'avais pas lu le début de ce petit discours, où d'abord Paul dit, oh, « Homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ?» Donc, il voulait faire des sacrifices à Barnabas et Paul comme si c'était des dieux. « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Et là, j'ai repris qu'il a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, bon, même si c'était révélé. Donc, de nouveau, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. La passerelle est là, mais pas simplement pour ne pas aller jusqu'au bout. Il y a un appel à la repentance. Et dans Acte 17, le mot « même » est utilisé parce que, donc à partir du verset 30, acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, même s'il a... Il a écrit la passerelle avec les mots abstraits, avec l'autel dédié à un dieu inconnu, en citant leur propre poète. À la fin, il annonce quand même qu'il faut se repentir, qu'il faut changer d'avis. Même si, en réalité, quand les Grecs avaient entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent « nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Et Paul se retira du milieu d'eux et avait donc et s'attachèrent à lui quelques personnes, au moins quatre, qui avaient cru, Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres, donc un minimum d'eux. Il y avait au moins quatre conversions, on peut dire. Et même si on peut dire que c'est peu, moi j'aimerais bien que quatre personnes se convertissent chaque fois que j'annonce l'Évangile, hein, je peux le dire, hein, et vous aussi certainement. Donc, jusque-là, donc vous m'avez suivi, je pense que c'est biblique d'adapter la façon de parler à notre auditoire pour qu'ils comprennent, du moment que finalement on les appelle quand même à changer d'avis, à se repentir. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Jusque-là, c'était la Bible. Et j'aime bien, personnellement, cette interface entre la Bible et la société, la Bible et l'économie, qu'on a vu. C'est important. Parce que si on vient dans une sorte de bulle le dimanche matin, où on oublie tout ce qu'on a vécu pendant la semaine, on n'est pas beaucoup avancé. Certes, on a passé un bon moment avec le Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire et comment on va faire avec tout le monde que l'on côtoie tout au long de la semaine? Donc, il faut quand même les comprendre. Et donc là, je vais passer à une petite explication de ce qu'on appelle la postmodernité. parce que ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc maintenant, on n'est plus dans la Bible, on est dans l'observation de la société qui nous entoure. Et la postmodernité, c'est un philosophe français, Jean-François Lyotard, qui a donné une définition, qui est souvent citée d'ailleurs, mais c'est un vrai philosophe, hein, parce qu'en fait, on va voir dans sa définition. En simplifiant à l'extrême, on tient pour postmoderne l'incrédulité à l'égard des métarécits. Quand je dis un vrai philosophe, parce que d'abord, il se protège en simplifiant à l'extrême. Donc, si quelqu'un lui dit c'est pas ça, il dit ah ouais, mais j'ai simplifié à l'extrême. Ensuite, il a inventé un mot, métarécit. Alors, ça, c'est une des caractéristiques de notre société française. Les gens parlent et quand on comprend rien, on dit ah, il doit avoir beaucoup de bagages. La preuve, c'est que j'ai rien compris. Mais ça, au fond, les chrétiens, il faut pas qu'on aille dans ce sens. Il faut se faire comprendre quand on parle. Alors, Jean-François Lyotard, donc, a expliqué que la postmodernité, je n'utilise pas le mot postmodernisme, je vais vous dire après pourquoi, que la postmodernité, c'est l'incrédulité, ça veut dire on ne croit pas à des méta-récits. Alors, c'est quoi un méta-récit? Cette philosophie est sortie un peu, par exemple, de la linguistique, de la littérature, du récit. Et on dit, OK, on a chacun une vie, et cette vie, c'est un récit, une histoire qu'on vit. OK, chacun vit son histoire. Méta, en grec, veut dire au-delà de, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui nous dépasse, qui va plus loin. Ce qui était avant nous, ce qui vient après nous, c'est le méta-récit, le méta-histoire, la grande histoire. Et philosophiquement, on a toujours cherché à trouver un sens à cette histoire. On a toujours cherché à donner un sens. À certaines époques, le sens de l'histoire, c'était un peu farfelu, des dieux qui se battent et puis finalement décident de créer un monde, enfin des trucs comme ça. Ça tient pas. D'autres philosophes ont vraiment cherché à comprendre le monde où nous nous trouvons. Et puis, à dire en quelque sorte, la preuve de la justesse de la philosophie, c'est que cela explique le vrai vécu des êtres humains. C'est pour ça que Jean-François Lyotard n'a pas dit l'incrédulité à l'égard de la philosophie, il aurait pu, mais de ce sens de l'histoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus que l'histoire a un sens. On le croyait avant, on n'y croit plus. Ça, c'est typique, surtout de l'Europe, et la France est dans tous les sens au centre de l'Europe, parce que beaucoup de philosophes, surtout de la postmodernité, sont venus de notre pays. Donc voilà une petite définition du métarécit, ce que je viens de dire, mais autrement, un métarécit est une grande explication de la vie dans laquelle nous devons nous insérer pour donner un sens à notre existence individuelle. Parce que mon histoire, à quoi ça sert? Et aujourd'hui, finalement, on ne cherche plus à changer le monde, parce qu'on n'y croit plus. Tout ce qu'on veut, c'est changer mon monde individuel. Et c'est pour cela que cette émission qui est passée un certain temps à la télé, c'était vraiment le résumé de la postmodernité, c'est mon choix. C'est mon choix. Je choisis ce que je veux. Je ne tiens pas compte ni des autres dans un sens. Et je ne tiens surtout pas compte d'un sens de l'histoire. OK? C'est très individuel. Et donc, classiquement, dans le métarécit, c'est une grande explication de la vie dans laquelle on s'insère pour donner un sens à notre existence individuelle. Je vais donner trois exemples. Le marxisme, l'islam, et le christianisme. Le marxisme, certes, on peut dire que beaucoup n'y croient plus. Quand j'étais étudiant, ça m'a fixé Mon âge, je suis en 68. Je suis un 68ard. Mes lettres de noblesse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait? Je parlais tout à l'heure du GBU. On avait un stand de Bible. Mais en face de nous, il y avait un stand des trotskistes, un stand des maoïstes, un stand des marxistes-léninistes, un stand parfois des guévaristes, Che Guevara, et etc., etc. Et tous ces stands se battaient autant entre eux, même si c'était tous marxistes dans un sens, qu'avec moi. Parce que, et là, je le dis à mes étudiants, et ils ont du mal à la comprendre, et ceux qui sont nés depuis, ils ont du mal à comprendre. En 68, tout le monde pensait que leur compréhension de la vérité était la vraie. Qu'il fallait chercher par tous les moyens à faire passer, parce que ce n'était que comme cela qu'on allait changer le monde. Et on y pensait vraiment. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que croient les membres du Parti communiste aujourd'hui. Ils voient que leur nombre diminue alors que le nombre des évangéliques grandit. Ça, c'est vrai. Mais je ne sais pas ce qu'ils croient. S'ils croient vraiment au marxisme classique, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que pour eux, c'était une explication. Hein, je m'explique. Imaginez un ouvrier chez Renault, pas ici, mais à Boulogne-Billancourt à l'époque. C'était pas les robots. L'ouvrier, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, 5 jours par semaine, il resserre le même boulon. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le week-end? Il est communiste. Il va vendre Humanité Dimanche, je ne sais pas quoi, devant les bouches du métro. Parce qu'il dit, le communisme va venir. Il y a trop de contradictions. Hein, c'était le marxisme classique, trop de contradictions. Le patron veut pas payer cher son ouvrier. Le patron veut faire beaucoup de bénéfices. Il produit un maximum pour faire les bénéfices, mais s'il ne paie pas ses ouvriers, qui va acheter ses choses pour faire les bénéfices. Enfin, c'est... Et dans le marxisme classique, c'était une contradiction qui devait forcément mener à la venue du paradis marxiste. Mais pour faire venir ce paradis plus rapidement, le parti était là pour essayer de faire passer des idées. Donc, ce petit ouvrier, sa vie n'avait pas de sens dans son usine toute la journée, mais le week-end, il dit, je milite, je fais quelque chose, ma vie a un sens parce que, en fait, je me mets dans le cours de l'histoire pour changer cette histoire. Ok? On peut dire la même chose pour l'islam. Ceux qui sont musulmans, à partir de l'Ancien Testament, de Jésus comme prophète, ma plus, que Mohammed, ils vont dire, voilà, l'histoire a un sens. On va dans le sens de l'histoire. Et bien sûr, nous, en tant que chrétiens, c'est la même chose. À partir de la création, le choix, le péché qui rentre dans le monde, le choix d'Abraham, de Moïse, du peuple d'Israël, des prophètes, de Jésus et ses disciples, de Paul, et puis on peut... Chacun peut mentionner des personnes, hein, que ce soit Augustin ou Calvin, troisième fois, des grands missionnaires, Hudson Taylor en Chine, etc. On va dire, on est dans la même histoire. Et si André prêche un jour sur le prophète Jérémie, personne ne va dire, oh, c'était il y a longtemps, ça ne me concerne absolument pas. On est dans la même histoire. Et on s'attend à ce que cette histoire se termine un jour, il y aura le jugement, la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, où la justice habitera. Mais, autour de nous, les gens ne croient plus à cette vérité, à une telle vérité universelle et absolue qui est vraie pour tout le monde. On n'y croit plus. C'est là la grande difficulté de notre évangélisation. Pire, si on vient en disant qu'il y a un sens à l'histoire, on est a priori suspect, parce qu'on va dire, il veut m'imposer quelque chose, hein, c'est ton choix, c'est très bien, mais laisse-moi tranquille. Donc, on est a priori suspect. Je pourrais citer même le président d'une université en région parisienne, qui a refusé au GBU la possibilité d'avoir une salle dans la fac. Donc j'ai essayé de dialoguer un peu, et dit, vous faites du prosélytisme. Je dis, on fait du prosélytisme, pourquoi vous dites ça? On n'est même pas présent, on demande une salle. Et sa réponse est très révélateur. Vous faites du prosélytisme parce que vous avez, j'ai regardé sur votre site, vous avez une confession de foi. Donc ça veut dire que si on croit quelque chose, forcément on va vouloir l'imposer à d'autres, donc on fait du prosélytisme. C'est un peu court comme raisonnement, mais c'est ça que les gens disent autour de nous. Ils pensent. Donc quand on vient avec ce qu'on pense être une bonne nouvelle, pour eux c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'ils veulent en fait continuer à vivre leur petite vie, c'est mon choix, chacun avec son choix, et nous on vient les embêter en quelque sorte. Et parce qu'on ne croit plus, les gens ne croient plus qu'il y a cette vérité universelle et absolue. Une des grandes valeurs de la postmodernité, c'est la tolérance, que chacun puisse vivre son truc. Donc, si on vient, comme ils disent, pour imposer cela, on est dangereux. On est dangereux. Je vais revenir à ça. Deux petit mot supplémentaire avant d'aller plus loin. D'abord, pourquoi je dis que le postmodernisme n'existe pas? Parce qu'un isme est une idéologie. C'est une façon de voir le monde. Et la postmodernité dit qu'il n'y en a pas. Donc dire que c'est une autre idéologie n'a pas de sens, en quelque sorte. Ce n'est pas une autre idéologie, c'est le refus de toute idéologie, de toute philosophie, de tout métarécit. Et la deuxième remarque, c'est que les philosophes français actuels n'aiment pas trop le mot postmoderne. Ils ont tendance à parler de ultramoderne. Ça veut dire à la fin de la modernité. Alors, là, un petit mot pour expliquer. Postmoderne ne veut rien dire en tant que tel. Ça veut dire que c'est bien après ce qui est moderne. Mais qu'est-ce qui est moderne? Si vous vous inscrivez en fac en France pour étudier l'histoire, et vous dites, je vais étudier l'histoire moderne, ça s'arrête quand, l'histoire moderne? 1789. Après, c'est l'histoire contemporaine. C'est comme ça. Ça a commencé, en fait, on dit la modernité, à la fin du 15e siècle, la chute de Constantinople, l'invention de l'imprimerie, la Renaissance, la Réforme, la découverte de l'Amérique, jusqu'en 1789. Et c'était donc l'âge d'or, le siècle des Lumières, 18e siècle, où on pensait vraiment que la philosophie allait tout expliquer, on n'avait plus besoin de religion, on n'avait plus besoin de foi, la philosophie, la raison allait nous tout expliquer. Donc la modernité est maintenant refusée parce que déjà au 19e siècle, on mettait des doutes. Et ce n'est qu'en 68 que c'était pour moi le dernier soubresaut de la modernité, et après c'est fini, c'est la postmodernité. Quels sont ces doutes? C'est un philosophe, Paul Ricoeur, qui a parlé des maîtres du soupçon. On met les soupçons. Il en a parlé de trois, moi je mentionne quatre. Darwin, qui dit, tu pensais que l'homme avait une valeur, mais ce n'est que le résultat d'une longue période de hasard, etc. Sans Dieu. Freud, tu pensais que tu croyais quelque chose, mais dans ton subconscient, c'est tout autre chose, en fait, etc. Donc, tu peux même pas faire confiance à ce que tu dis. Marx, tu pensais que tu dis vrai, mais ce que tu dis est uniquement fonction de ta classe sociale. Hein? Et puis, le roi des philosophes du soupçon, Nietzsche, qui arrive à dire que Dieu est mort, mais si l'homme est mort. Okay. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans cette situation que les gens ne croient pas qu'une vérité universelle et absolue existe. Et vous n'avez qu'à écouter ce que disent les hommes et femmes politiques, et je ne veux pas rentrer dans la période électorale, mais on n'est plus dans la notion des grandes idées, beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins. Alors, pour terminer cette partie de présentation, de visite des lieux en quelque sorte, quatre convictions personnelles sur l'évangélisation, et on va continuer avec cela cet après-midi avec des passerelles plus concrètes. Ma première conviction personnelle, c'est que l'évangélisation est un processus. C'est qu'il faut suivre les personnes dans leur cheminement. Les gens sont tellement loin, que même s'ils entendent l'évangile, c'est pas ceux qui comprennent. Billy Graham est un très grand évangéliste. Ma femme s'est convertie par une prédication de Billy Graham. Mais il prêchait à partir de l'idée que les gens avaient quand même certains souvenirs de leur christianisme de cathée ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je discutais avec un étudiant qui rentre en HEC, donc école prestigieuse sur Paris, il y a quelques mois, il est venu à l'église. Et il a vu, c'était à Pâques, on a vu marqué, Jésus est vivant. Il m'a dit, mais je pensais qu'il était mort. Je dis, mais il est ressuscité. Elle me dit, mais où est-il alors? Elle dit, maintenant, tu connais l'ascension et un jour férié? Oui, je connais. Bon, ascension, Jésus est monté au ciel à ce moment-là. Ah bon? Et j'ai enchaîné pour dire, et après, 10 jours après, c'était la Pentecôte. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, et c'était le début de l'Église. Il est à l'âge d'arrête. L'âge d'arrête, l'Église existait avant Jésus. Je dis, mais pourquoi l'Église existait avant Jésus? Mais comment les gens auraient su que Dieu existe, s'il n'y avait pas d'Église? Enfin, c'était tellement, tellement mélangé dans sa tête. Mais un étudiant intelligent, mais qui comprenait rien à rien. Donc, il faut donner le temps au temps. Donc, ça veut dire qu'il faut accompagner les gens. C'est un processus. C'est pour cela que les parcours alpha, c'est sur 12 semaines. Moi, je propose un autre qui s'appelle Passerelle vers Dieu, sur 6 semaines. Mais on donne le temps aux gens de découvrir, parce qu'ils sont tellement loin. Il faut aller en amont par rapport à ce que l'on faisait avant. Donc, c'est un processus. La deuxième chose, c'est que l'évangélisation se passe le mieux dans un cadre relationnel. Donc, forcément, si c'est un processus, on veut pouvoir accompagner les personnes. Je suis toujours content quand j'ai l'occasion de partager l'évangile avec un inconnu dans un train ou je sais pas quoi. Mais je suis encore plus content quand c'est quelqu'un que je connais et que l'on peut suivre et avoir de nouveaux contacts avec la personne. Donc, c'est dans un cadre relationnel. Et les chiffres sont là à l'appui. Parce que ma mission avait fait un petit sondage il y a quelques années pour savoir quel était le facteur déterminant pour la conversion de quelqu'un. Et on avait des chiffres que je pense que je vais les trouver, hein, parce que je ne vais pas les citer par cœur. Voilà. On pouvait donner plus d'une réponse, donc il y a une petite fourchette. Entre 3 et 8% par sa propre recherche spirituelle. Entre 4 et 10% par les activités de l'Église, 3 à 6% par le pasteur. C'est pas beaucoup, hein? Je suis pasteur aussi, donc. Mais entre 60 et 80% pour le témoignage d'amis ou de collègues ou de famille. Donc ça veut dire que c'est le contact régulier avec amis, collègues, personne de la famille, qui est le facteur déterminant pour la conversion de quelqu'un. Donc ça se passe dans un cadre relationnel. Cela dit, il ne faut pas non plus oublier la visibilité dans l'espace public. Je crois que cela est aussi important. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne connais pas bien cette église, mais je pense que toute église aujourd'hui cherche à bâtir une relation avec la municipalité, avec d'autres associations, etc. Parce qu'il faut que l'on soit visible dans l'espace public. Il y a différentes façons de le faire. La dernière église où j'étais à Blanc-Mesnil, et puis l'église où je suis maintenant, dans le 17e, dans les deux cas, j'ai réussi à faire en sorte que le site de la municipalité mette un lien vers le site de l'église. C'était important. Parce que ça avait, on est, oui ou non, un espace public. On est un espace public. On peut nous contrôler pour des extincteurs et tout le reste. Donc, c'est normal que l'espace public soit mentionné sur le site de la mairie. C'est un exemple, par exemple. Mais vous pouvez en citer d'autres. Et cette visibilité est très importante. Un petit mot là par rapport à la laïcité. Dans le cadre de la laïcité, les gens ont tendance à dire il y a deux espaces, l'espace privé et l'espace public. Mais ce n'est pas vrai, il y en a trois. L'espace privé, et heureusement. Ensuite, l'espace public institutionnel, où si on est prof, ou médecin ou fonctionnaire, on est neutre, on ne parle pas de sa foi dans ce contexte. Mais il y a aussi l'espace public citoyen, où on a tout autant le droit de parler de nos convictions que quiconque. Donc il ne faut pas se laisser faire, en quelque sorte. On a cet espace de liberté, d'expression publique. Et donc, je vais vite, mais on peut approfondir cet après-midi. Une quatrième chose, c'est une apologétique appropriée. Donc apologétique, cela veut dire expliquer la foi. Et je pense qu'il y a au moins quatre aspects de cette apologétique. La première aspect, c'est de tout simplement expliquer notre foi avec des mots que les gens comprennent. L'apologétique informative. Parce que comment discuter avec les gens? En quelque sorte, les gens qui sont hyper intelligents sont dans la maternelle quand il s'agit de leur compréhension biblique. Il faut pas les prendre de haut, hein, non plus, hein. Mais il faut qu'ils comprennent un certain nombre de concepts. Autrement, on parle dans le vide. Donc, l'apologétique informative. Deuxième chose, là, c'est l'apologétique telle qu'on le comprend souvent, c'est de répondre aux objections des gens. Hein, pourquoi ils ne croient pas? Au GBU, on fait ce qu'on appelle des réunions veritas, où on essaie de répondre aux questions. Le troisième aspect de l'apologétique, c'est notre vie communautaire. Vous êtes une lettre de Christ connue et lue de tous les hommes, 2 Corinthiens 3. Donc, quand les gens voient que nous mettons en pratique notre foi et on vit vraiment une communauté autre, c'est aussi une apologétique. Et le quatrième aspect, c'est certainement tout ce qui est artistique dans le sens large, musique, peinture, théâtre, etc., où on essaie aussi de communiquer avec différents moyens artistiques. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, j'espère que vous avez plus ou moins suivi, mais donc je voulais en résumé dire des passerelles sont possibles, bibliquement, et comment va-t-on créer ces passerelles dans notre société aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir cet après-midi. Merci.